N'oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui.
Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ?
Mais toi, c'est ta... T'as dit pas un voleur aussi !
Elle va porter plainte pendant qu'on y est !
Vous voulez porter plainte ?
Je passe l'éponge.
Un iceberg, droit devant !
Et après ? Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi ?
Plan séquence.
Alors, ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Va mieux que jamais, même.
Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire ? Qu'est-ce que deviennent les salariés ?
Sur Radio Campus Tour.
Je suis ton père.
T'es incapable de m'aimer ! Incapable de m'aimer !
Petite saloperie de païen communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge, ou je détripe moi un coup de pompe, tu m'entends? Alors dis-le que tu l'aimes, la Sainte Vierge, dis-le, mon guignol!
Chef négatif, chef!
Chut, regarde, comme c'est joli. Y'a Bambi qui fait dodo.
Tous les jeudis soirs.
Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage.
Cinglé! Ah, c'est ça? Tu me crois givré à mort!
Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, y a pas de hasard.
Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Radio Campus Tour, le 99.5 FM, je suis ravie de vous retrouver pour une 15e saison de Plan Séquence. Alors cette année, on vous l'avait annoncé déjà en juillet pour la dernière de la saison, on passe en quinzaine. Voilà, donc c'est la première, on est le samedi 20 septembre. Je suis évidemment pas toute seule autour de cette table. Je présenterai notre nouvelle recrue en dernier, mais voilà, il y a Charles, c'est ta 8e saison, hein, Charles, on en parlait cette semaine.
8e ou
9e, oui, c'est t'as 9e, fait 8 ans et ouais. Du coup c'est ta 9e. Et ouais. Et ouais. Et toujours au micro, tu vas évidemment nous parler de films Netflix, même si tu travailles dans un cinéma.
Voilà.
On ne change pas une équipe qui gagne. Tu nous parleras d'un film de Chris Columbus, c'est ça ?
C'est ça.
Mon réalisateur de mon enfance. Il y a Louise.
Eh oui.
Bonjour Louise.
Bonjour,
ça va bien ?
Bonjour. Bah oui, ça va et toi ?
Ouais, très bien. Tu vas nous parler de quoi ce soir ? J'avais dit bonjour et puis là, je dis ce soir. Mince.
Eh bien, je vais vous parler d'un court-métrage, L'Escalier de Frédéric Mermoud. Et moi, c'est ma 2e saison, je crois. Enfin, non. Si, 2e ouais. Saison, ouais.
Super. Et pour ma part, voilà, je vous parlerai de Sirat. Et voilà, je présente Isabelle qui nous rejoint cette année.
Bonjour.
Et il y aura. Bonjour, ça va bien ?
Ouais, super. Pourquoi tu me poses la question ?
Oui, on va tous bien. Et on espère d'ailleurs que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances d'ailleurs derrière votre poste. Et tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ?
De l'actualité de la semaine.
Super. Et Jerry, peut-être, voilà, va venir, on l'attend.
Il a dit qu'il venait, il est toujours pas là.
Ouais, oui, oui. Mais
Jerry,
voilà, si
tu nous écoutes dans ta voiture.
C'est ça. Peut-être que tu cherches une place. Ouais. Et puis, voilà, aussi, on va... Ah, ben bah, voilà. Et quand on parle,
Jerry,
voilà, Jerry arrive. Et on vous passera, voilà, une interview. On va aussi, cette année, comme chaque année... On continue nos interviews au Cinéma Studio. On les remercie toujours à cette antenne, nos partenaires de cœur. On a eu la chance de rencontrer Laura Vandel, réalisatrice de L'Intérêt d'Adam, qui est sortie mercredi dernier. Et voilà, on vous passera le son. Ça dure une quinzaine de minutes. Avant de passer voilà, à cette interview, on va commencer quand même par les actualités de la semaine. Et on va peut-être commencer par l'actualité quand même de la semaine, et c'est de la nécrologie. C'est la mort de l'immense, du grand Robert Redford. Qui veut s'y coller pour dire quelques mots sur ce géant qui vient de disparaître ?
Bah oui, comme je suis la dinosaure de cette table, c'est normal que ça soit moi qui m'y colle. Donc, bon, je suis bien consciente que pour la plupart des auditeurs, c'est une nouvelle lointaine, mais c'est une nouvelle triste quand même. Et oui, c'est vrai que ça fait bizarre. Il avait 89 ans, fallait bien que ça arrive, mais non, on ne s'y fait jamais. On a beau le savoir, hein, quand c'est là, c'est terrible. On a l'impression de perdre un ami. C'est comme Clint Eastwood, par exemple. Hein. Oui, vous voyez,
il tient encore.
Il tient encore.
Oh, ouais, il est encore là, mais bon, ça va nous arriver quand même.
Ouais.
Oh non.
On s'y prépare, allez, soyons préparés quand même.
Bon, ce sont des personnages qui nous ont accompagnés toute notre vie et tout à coup, on nous dit c'est fini et là, ça nous rend triste. Heureusement, il reste les films. Il a joué dans plus de 70 longs métrages quand même et je suis certaine qu'ici, chacun et chacune a son film référence de Bob. Non, Louise ? Mais ça, t'en as bien vu un quand même.
Allez, okay. Louise.
Oi, oi, oi. Bah voilà. Non, mais ce qui est génial, Louise, ça veut dire que tu vas avoir plein de films de Robert Redford.
T'en as 70 à regarder.
Voilà.
Seulement.
Ce alors... week-end, il pleut.
Charles, toi, c'est quoi ton film préféré avec
alors,
Robert Redford?
Alors, c'est marrant, c'est pas forcément mon film préféré. Mais j'ai souvenir de film qui s'appelle Proposition indécente, de l'époque où j'étais, moi, ado, fan de Demi Moore, c'était mon crush, et ma mère, son crush, c'était Robert Redford. Et du coup, ce film-là, voilà, il marchait bien.
Non, mais on peut citer Out of Africa, par exemple. Et j'ai vu qu'il y avait un film, j'ai plus le nom là, mais que je n'ai pas vu, qui passait sur France 5 hier, et je rattraperai bien, c'est un western, parce qu'il a joué aussi dans quelques westerns.
Hein. Butch Cassidy.
Et c'était un autre là que je n'avais pas vu, et que je rattraperai bien. Et toi, ça serait quoi?
C'est vrai qu'on se dit, il y a Out of Africa, il y a Les Trois Jours du Condor,
parce qu'il était réalisateur aussi.
Oui, il y a Les Hommes du Président, enfin, il y a tout ça. Donc, effectivement, il était comédien. Il a eu qu'un seul Oscar.
Oui. Ouais, mais Devers, il n'en a jamais eu, par exemple. Voilà. Je le redis toujours à cette antenne. Ni d'Oscar, ni de César.
Il n'est pas mort à 89.
Non, il avait 37. Voilà.
D'ailleurs, il y a une super BD sur lui que je vous conseille de lire, qui est sortie il n'y a pas longtemps.
Redford ou Devers?
Non, sur Devers.
Devers.
Ouais. Oui, j'arrive, t'as vu, attends, j'ai réussi à placer Devers en même pas 15 minutes d'émission.
Voilà. Bravo. Donc, il a eu un Oscar du meilleur réalisateur en 81 pour Ordinary People, Des gens comme les autres. Il a réalisé 9 longs métrages, dont L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, celui-là aussi. On se dit, ah bah oui, il y a aussi celui-là, Au milieu coule une rivière. Ah oui, il y a aussi celui-là.
Ah,
oui.
Ah ça, je connais.
Ah, voilà.
Avec Brad Pitt.
Oui, avec la pêche.
Oui, avec la pêche.
Ah, mouche, voilà. C'est le seul que j'ai.
Tu peux commencer par celui-ci. Et il était très pour le cinéma indépendant, et ça l'a conduit à cofonder le festival de Sundance en 78. Donc, en plus d'être un sublime comédien, d'être un réalisateur, il a été un pionnier de l'écologie. Il s'est très tôt engagé pour la protection de l'environnement. Il a dénoncé les destructions des espaces naturels. Il a même acheté un terrain dans l'Utah qu'il a nommé Sundance. Voilà, bravo, il y en a un qui suit. Il a manifesté pour la prise de parole publique, notamment à l'ONU, où il a appelé à des mesures urgentes contre le changement climatique. Qui dit changement climatique dit aussi défenseur des droits humains. Il a soutenu les droits des Amérindiens, des minorités, de la communauté LGBTQIA+. Bref, il a vraiment œuvré. Donc c'est une légende. Comme je disais, il n'a gagné en tant que comédien qu'un seul Oscar pour l'ensemble de sa carrière en 2002. Rien pour tous les films qu'il a fait. Comme quoi, ce n'est pas la récompense qui fait le talent.
Exactement.
Voilà, on est tous d'accord là-dessus.
Ouais.
Voilà.
Et bah super. Enfin, super. Pas pour sa disparition, évidemment. On vous conseille. On a cité plein de films. Donc, ces films-là, vous pouvez les retrouver. Je sais que France Télé en a mis quelques-uns en ligne. On dit toujours les plateformes gratuites aussi de mise à disposition de films de patrimoine. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, peut-être qu'il y a des cinémas qui vont reprojeter certains films dans les prochains mois.
On espère.
Est-ce qu'on a quelques news on a quelques news locales peut-être aussi. Géry, tu voulais...
Tout à fait. Bonjour.
Bonjour Géry.
Bonjour.
C'est vrai.
Ça va bien?
Oui, malgré ce retard, je vais bien, merci. Donc oui, je vous ai préparé un petit agenda. À la base, je comptais faire un agenda de rentrée sur septembre-octobre. Mais finalement, ce week-end est très chargé en actualité, en sortie. On s'est laissé surprendre par le soleil hier, mais malheureusement, c'était de courte durée. Mais petit à petit arrivent un peu les sorties cinéma d'automne. On commence ce week-end, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le festival À Tour de Bulle, donc qui a commencé hier soir avec une projection au studio, mais il y aura également une projection demain avec un ciné-goûté. Il y aura notamment une projection de Wallace et Gromit dans l'après-midi, qui sera suivie d'une dédicace avec l'autrice de BD, Milena. Et également, tout ce week-end, c'est les journées du patrimoine et matrimoine, donc tout au long de ce week-end, il y a des sorties, des activités qui sont proposées au cinéma pour les petits et les grands, notamment avec des utilisations de jeux optiques, pour apprendre aux plus jeunes les différents effets visuels et comment fonctionne l'optique. Et il y aura également, dans le cadre de ce week-end du festival du patrimoine et du matrimoine, la projection d'un film documentaire sur les studios, nommé Les Studios, un cinéma singulier. Et je crois que cette projection est en fait en continu tout au long du week-end. Elle sera gratuite. Bon, les autres projections sont au tarif habituel. Mais si vous voulez renseigner sur le patrimoine du cinéma studio.
Ouais, c'est le film qu'ils avaient réalisé pour les 60 ans.
C'est ça. Et également, toujours au studio, vous aurez à 19h15 aujourd'hui une projection unique des Sorcières d'Eastwick.
Ah ouais.
Film de George Miller, qui avait fait également l'objet d'un podcast en direct l'année dernière au festival Mauvais Tour. Festival dont on aura l'occasion, bien sûr, de reparler. Quoi d'autre ? Mardi, cette fois au CGR, il y a un ciné-débat, donc le CGR Tours Centre continue les soirées ciné-débat. Il y a eu récemment une soirée avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Mais là, ce mardi 23 à 19h30, ça sera avec la projection du film Sam fait plus rire, donc Sam comme le prénom, un film autour des thématiques féministes et du harcèlement, et ça sera suivi d'un débat
féministe
avec le collectif Nous Toutes. Voilà. Donc plein de choses à faire. Je pense qu'on aura l'occasion d'avoir un agenda plus exhaustif.
Et je rajoute à ça, parce que vu que maintenant on passe en quinzaine, vendredi prochain, parce que j'aime beaucoup ce réalisateur, il y a le réalisateur Arnaud Desplechin qui vient au studio à 19h45 pour présenter son nouveau long métrage De Piano avec François Civil et Charlotte Rampling. Et puis j'annonce aussi le dimanche 27 septembre, donc dimanche prochain, au cinéma de Langeais, projection pardon de la reine Margot en présence de Jean-Hugues Anglade, voilà, qui va représenter en tout cas la reine Margot de Patrice Chéreau.
Merci pour ces précisions.
Voilà. Et encore quelques effectivement infos. Et on a appris cette semaine le film qui allait représenter la France aux Oscars. On ne sait pas encore s'il va être dans la sélection, mais en tout cas voilà le Et Isabelle, si tu veux en dire quelques mots sur un film qui sort bientôt d'ailleurs.
Oui, alors je ne vais pas vous donner son nom tout de suite parce que je veux que vous vous mettiez dans la place du gars qui attend de savoir s'il va vraiment représenter les Oscars, parce que c'est un long chemin absolument pas tranquille qu'il faut parcourir pour avoir éventuellement une chance de gagner la fameuse statuette. Alors, déjà, est-ce que vous connaissez les critères officiels de l'Académie des Oscars pour représenter un film ?
Pas du tout.
Bon.
Non.
Bon, le premier truc qui nous semble un peu logique, c'est qu'il faut que ça soit un long métrage de plus de 40 minutes. Ça, c'est OK. Ah oui, ça paraît assez... voilà, OK, on est d'accord. Ensuite, pour être dans la sélection internationale, il faut qu'il soit tourné en langue étrangère. Mais même s'il est français, il peut être tourné en langue étrangère. Donc tout sauf de l'anglais et à plus de 50%. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, il faut qu'il soit sorti en France entre le 1er octobre et le 30 septembre. Et puis, il faut que le contrôle créatif soit à plus de 50% français.
Ouais. Ah oui.
Donc ça, okay. on l'a bien en tête. Ouais. Ouais. Donc il y a une première shortlist qui a été faite par une commission du CNC. Donc il y a 11 personnes qui se sont réunies et qui ont décidé qu'il y aurait 4 films qui pouvaient éventuellement concourir. Alors ils ne sont pas allés chercher bien loin. Ils sont allés chercher directement à Cannes. Ils se sont dit, bah, tiens, si on prenait Nouvelle Vague de Linklater, qui est donc en compétition. Il y a eu Vie privée de Rebecca Zlotowski, qui était hors compétition. La petite dernière de Afzia Herzi, qui a gagné le prix d'interprétation avec Nadia Meliti et la Queer Palme du meilleur film LGBTQI+. Je ne vais pas y arriver, mais voilà. Et le dernier, c'est Un simple accident de Jafar Panahi. Puis là, on se dit, comment ça
qui est donc... Alors, si je peux me permettre, parce que je l'ai vu et j'ai adoré ce film, il y avait Arco d'Hugo Bienvenu qui n'était pas à Cannes et qui a eu le cristal à Annecy, qui était dans la shortlist.
Qui était dans la shortlist, ouais. D'accord, exactement.
Pour une fois que tu as un film d'animation, je...
Voilà, c'était ouais. L'animation. Mais c'est vrai que pour moi, l'animation, c'est pas un film. Ouh, oh mon Dieu. On en reparlera.
Oh, ah ouais, carrément, on en reparlera.
Non, c'est pas... Bon, bref, on en reparlera. Donc, Un simple accident a eu la Palme d'Or. Alors, on se dit, mais comment ça, le film de Panahi, représentant la France, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben... On regarde, effectivement, il a été tourné dans une langue étrangère et il est coproduit par les Français Philippe Martin et David Thion pour Péléas avec Jafar Panahi Film Production et Bidibule Production du Luxembourg. Donc, le budget de 1,2 million, il est financé à plus de 80% par les sources françaises, donc il peut représenter la France aux Oscars. Voilà. C'est donc une étape supplémentaire, mais il en reste plusieurs. Le 16 décembre, on verra si ce film fait partie des 15 autres films internationaux, parce qu'il n'y a pas que la France. Hein, voilà. Et ensuite, il faudra attendre le 15 mars pour entendre la fameuse phrase « And the winner is ». Et là, on saura. En attendant, vaut mieux penser à autre chose, en espérant que le réalisateur restera en vie. Jusque-là, parce qu'il prend des risques énormes à chaque nouveau film. Et c'est l'occasion de dire que le cinéma est un médium de choix pour faire passer des idées et parfois aux dépens de sa propre vie ou de sa propre liberté.
Ouais, puis celui-là, on en parlera à la prochaine émission, mais j'ai eu la chance de le voir. C'est un puissant film. Et puis, pas juste politique, il y a aussi. Il est super bien écrit, il y a beaucoup d'humour aussi dans le film. Et je comprends qu'il ait eu. Enfin, après, j'avais pas vu tous les films de Cannes, mais c'est une œuvre assez forte. On va poursuivre, on va passer l'interview voilà, de, Laura Vandel, qui avait signé Un Monde hein, il y a quelques années, pour ceux qui l'avaient vu. Toujours un film assez clinique, ça dure 1h15, c'est efficace. Un film avec Léa Drucker, notamment, qui est sorti au studio mercredi. Et voilà, on a fait l'interview avec Stéphanie de RFL 101 il y a quelques semaines maintenant. Et ben, je vous propose, on l'écoute tout de suite maintenant.
À Cannes, en mai dernier, j'ai un souvenir très précis du film et de ce que vous avez dit sur scène aussi ce soir-là. Et je me souviens, vous aviez dit aussi que le film avait été relu par voilà, des gens aussi de l'hôpital. Donc, vous savez, ce côté quasi-documentaire aussi et politique que vous portez au film, il naît aussi de ça. Donc, il y a cette première écriture. Et ensuite, comment vous avez travaillé cette, on va dire, relecture? Qu'est-ce que vous avez gardé, ne pas gardé? Est-ce qu'il y a des trucs que vous aviez écrits qui ont été réécrits?
En fait, le cas de Adam, c'est vraiment un pédiatre qui m'a raconté cette histoire. Et ça m'a interpellée parce que je me suis dit... donc, c'est vraiment une maman qui nourrissait son fils de manière à ce qu'il ait des carences assez graves, qui doivent être hospitalisés. Et c'était impossible pour elle de conscientiser le fait qu'elle est en partie responsable de ça. Et je me suis dit, mais comment on peut en arriver là? Et je me suis dit, forcément, ça cache une détresse. Et donc, j'ai vraiment eu envie de partir de ce cas-là, mais chaque cas dans l'histoire, même si, chaque cas qu'on voit à l'écran, même si évidemment c'est transformé, mais ça part vraiment d'une base réelle.
C'est pas anodin aussi, enfin, la coproduction, il y a voilà, les frères Dardenne, cette filiation aussi voilà, que vous avez avec ce cinéma-là. J'ai lu l'interview que vous avez donnée à Positif, là, qui est super, et vous parlez aussi de vos influences dans une façon plus grande juste que le film, et c'était super intéressant. Mais juste pour situer par rapport aux frères Dardenne et ce rapport que vous avez, voilà, avec, en plus vous êtes belge, donc il y a une filiation évidente.
Mais c'est sûr qu'ils font partie des cinéastes qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Et en fait, Luc et moi, on vit dans la même ville. Jean-Pierre, il vit à Liège, donc ailleurs en Belgique. Et la première fois que je les ai rencontrés, c'était au Festival de Cannes, quand je présentais mon premier court-métrage, Les Corps étrangers, en 2014. Et eux présentaient Deux jours, une nuit. Et j'ai vraiment senti qu'ils me prenaient un peu sous leur aile. Et puis, en fait, ça m'a paru assez naturel de leur faire lire, en tout cas à Luc, une version d'un scénario de Un Monde, et puis de montrer une version de montage. Et en fait, ça s'est fait tout à fait naturellement. Et voilà, c'est un grand honneur pour moi d'être accompagnée par eux. Et oui, effectivement, c'est vraiment une référence, mais en même temps, c'est aussi important pour moi de dire que ça reste quand même mon cinéma.
Bien sûr. Oui. Tout à fait, je suis très preneuse qu'on parle de la mise en scène et je voulais juste repréciser, puisqu'on a tout à l'heure évoqué Cannes, et donc il était présenté à l'ouverture dans la semaine de la critique, c'est ça hein. Et puis, outre le fait que c'est un film immersif et que tout de suite on pourrait penser de manière très différente à ce qu'a pu faire Catherine Corsini avec La Fracture, par rapport au côté social et la façon de gérer la gestion à l'intérieur de l'hôpital. Et puis, et l'urgence en plus, ça c'est quelque chose qui ressort dans votre film beaucoup. Je pense au documentaire aussi Madame Hoffman, hein, qui était très, très, très fort pour nous montrer ce qui se passe vraiment dans la vie d'une infirmière au quotidien. Dans votre film, ce que je trouve qui est une très très grande réussite, c'est qu'il y a un réalisme et une tension sociale, dramatique, familiale, très forte, les conditions médicales aussi qui sont montrées, mais en plus, crescendo, on va sur une tension psychologique à fleur de peau dans votre film, une émotion, un combat non-stop, non-stop, non-stop. En fait, on est pris au trip, quoi, excusez-moi le terme, mais... c'était une volonté pour vous, ce rythme qui, je trouve, à partir de la deuxième moitié du film, est de plus en plus en avant, comme ça. Je sais pas, j'aime pas me dire le mot thriller, mais presque, hein, quand même. On est dans quelque chose, on est tellement pris et on a le souffle coupé. C'était une volonté tout de suite, ça aussi, de travailler comme ça.
Mais en tout cas, ma volonté, c'était vraiment de faire ressentir au spectateur, vraiment dans son corps, ce que c'est que de devoir travailler à ce rythme, parce que c'est vraiment le rythme auxquels les personnes sonores doivent faire face, puisque c'est toujours par rapport à un manque de temps, un manque de moyens. Ben finalement, c'est ça qui est complètement paradoxal, c'est qu'ils sont censés prendre soin, mais à force d'avoir peu de moyens, ils finissent presque par en tout cas, arriver à beaucoup moins prendre soin.
Donc, pardon de vous couper, Lucie Léa Drucker endosse bien d'autres choses que ses fonctions normalement.
Oui, c'est ça. Et dans mes observations, j'ai vraiment vu qu'il n'avait en fait, ils n'ont presque pas le temps de s'asseoir déjà, rien que pour manger. Donc c'est très important, voilà, que ce rythme se fasse ressentir par rapport à la réalité que j'ai pu observer. Quoi.
Pour continuer sur la mise en scène, on a aussi beaucoup de plans rapprochés, des plans séquences aussi. Comment ce découpage-là, vous l'avez pensé avant le tournage? Parce qu'il est très millimétré, et voilà, après il y a le montage, mais il y a quand même beaucoup de choses là qui se jouent au tournage.
Alors, en fait, bon, je travaille depuis toujours avec Frédéric Noirhomme, qui est mon chef opérateur. On a pu chercher dans les lieux quelques jours avant le tournage. Je tiens à préciser que c'était un vrai hôpital. On a tourné dans un vrai hôpital, en fait, dans un service pas pédiatrique, mais un autre service, et en fait, qui nécessitait des travaux de peinture. Donc, on a eu beaucoup de chance. Pour moi, c'était clair que je voulais tourner dans un hôpital et pas dans un studio, pour avoir l'énergie. Et donc, on a pu chercher déjà dans les lieux, mais j'avais déjà cette intuition que c'était la meilleure manière de filmer cette histoire. Mais en même temps, c'est très important pour moi de rester quand même attentive à ce qui pouvait se passer au moment du tournage, parce qu'il n'y a rien à faire avec une équipe, avec les acteurs et ce qui se passe au moment même. Tout peut encore changer. Et donc, en fait, chaque matin, on recherchait comment filmer de la meilleure manière possible ce qui était en train de se passer sous nos yeux. Donc, il n'y avait rien de définitif, quoi. Autant je sentais que ça pouvait être la meilleure manière de filmer, autant je restais attentive à nouveau à ce qui se passait sous mes yeux au moment même.
Et idem avec les actrices, et après on pourra parler de la mise en scène aussi avec l'enfant, parce que c'est encore autre chose de mettre en scène aussi, vous l'avez fait pour un monde, mais là c'est encore autre chose. Et comment vous avez travaillé aussi avec ces actrices-là pendant le tournage? Est-ce que vous les avez laissées faire? Il y avait des indications extrêmement précises, ou alors avec le talent qu'elles ont, elles ont laissé libre cours à ce qu'elles pouvaient donner sur le moment?
Alors, Léa Drucker, on a été observée dans le même hôpital que j'ai été observée à Bruxelles, à l'hôpital Saint-Pierre. Ça, c'était très important. Et elle était très en demande aussi par rapport à ça. Et elle a aussi beaucoup discuté avec d'autres, en fait, avec le personnel infirmier qui était dans l'hôpital dans lequel on a tourné. Et surtout, en fait, il y avait un personnel soignant qui était constamment là pendant le tournage pour bien vérifier s'il faisait les gestes corrects. Et ça a énormément... pour moi, c'est très important que ce soit le plus vrai possible et qu'on reste dans une forme de réalité, parce que j'aime assez bien aussi que ça puisse paraître pour eux entre la fiction et le documentaire.
Et comme pour Un Monde, voilà, vous filmez vraiment à hauteur d'enfant. C'était ça qui était aussi très puissant dans votre premier film. Là, voilà, il y a un enfant, alors j'ai lu qu'ils étaient des jumeaux, en fait. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi, pareil, à la fois du comment vous avez trouvé ces enfants, qui sont captivants et puis qui sont émouvants, et comment après vous avez mis en scène, comme vous avez mis en scène dans Un Monde qui était très prenant aussi?
Alors, donc effectivement, il fallait trouver des jumeaux, ça c'est vraiment la condition de base pour les temps de travail des enfants. Mais c'est surtout Jules qui était à l'écran et son frère Léo qui était là, plus là comme doublure, ou alors quand il y avait des plans de dos par exemple. Et simplement, on a lancé un casting, et ce qui m'a vraiment très fort touchée chez Jules, c'est sa capacité à regarder droit dans les yeux et à soutenir vraiment le regard des adultes. Et aussi sa volonté en fait. Évidemment, comme il n'avait jamais joué, l'exercice que je demandais, c'est simplement de répéter des phrases après moi, et il y avait quelque chose de très naturel qui se passait à la caméra aussi. Et la manière dont on a travaillé, en fait, on a travaillé de la même manière que sur Un Monde, avec les mêmes deux coachs enfants. C'est que, en fait, on leur a expliqué la situation, et c'est toujours à deux à ce moment-là. Et alors, ensuite, on leur faisait jouer la situation avec des Playmobil. Et puis, on leur demandait d'improviser, eux. Et puis, on leur demandait de dessiner la scène. Et en fait, on a parcouru toutes les scènes du scénario comme ça. Et comme ça, au moment du tournage, ils avaient leur scénario dessiné par eux. Et je continuais en même temps à les diriger au moment même, quoi. Donc, on veillait toujours à ce que ce soit quelque chose de très ludique pour eux.
Puisque en fait votre film, enfin quand il, voilà, il va sortir, il y a une portée évidemment politique. Enfin, tu as cité voilà plein d'autres films qui sont sortis avant qui peuvent faire écho, en tout cas au sujet de votre film. Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment, enfin le cinéma, ça permet aussi des fois de faire bouger voilà les choses, en tout cas de faire questionner. Est-ce que vous, quand vous avez écrit en tout cas et démarré ce projet, d'une certaine manière, c'était aussi du cinéma politique en fait que vous faites, même si voilà, il y a tout ce côté émotion et le cinéma c'est fait aussi pour en être plein d'émotions, mais c'est aussi pour faire véhiculer, pas des messages, j'aime pas forcément ce terme-là, mais en tout cas une vision de la société.
Mais c'est sûr que j'ai envie de bousculer le public, et j'ai envie que ça fasse parler. Moi, je suis vraiment à défendre des films qui bousculent le spectateur. Et moi, mon objectif, c'est vraiment que ça ouvre au débat et que ça libère la parole. Après, voilà. Après, c'est sûr que, comme vous l'avez très bien dit, mon objectif, c'est pas de répondre à des questions, c'est plutôt de les poser, quoi. Oui.
Là, je rejoins Solène parce que je pense que ce qui est porteur, c'est de se dire, enfin c'est ce que je m'étais noté, enfin le film dépeint une tragédie sociale générale hein, dans une société moderne dépassée hein, dans le cadre du CHU pédiatrique, un rythme speed, des conditions inhumaines et une gestion qui est synonyme d'urgence de vie, en fait voilà les gestes qu'il faut, ça on sait que les infirmiers et les infirmières doivent prodiguer tous les jours les gestes qu'il faut, et cette vigilance permanente, ce truc, c'est hallucinant, on leur demande d'être robotisés là-dedans, et où est la place pour l'humain, et agir pour l'intérêt de l'enfant, ça on a bien compris dès le titre de votre film, c'est ça quoi, hein, agir pour l'intérêt, pour la survie, et puis l'amour, je crois qu'il y a une très grande force d'amour dans cette tension, c'est pour ça que je tiens à le préciser pour les spectateurs qui iront voir le film, on a parlé de plein de choses teneur dramatique, et on a parlé d'un souffle, une oppression dans tout ça, mais en vérité aussi, ça baigne tellement d'amour dans le rôle notamment de Léa. Hein, ce rôle est porteur d'un amour absolu, de défendre, je pense que vous avez, par là même, dans ce rôle, montré encore à quel point tous les soignants, dans la dévotion, ont un rôle absolument magnifique dans notre société. Quoi. Mm-hmm.
Oui, mais merci beaucoup de souligner cet aspect-là aussi, effectivement. Enfin, c'est ce que... En tout cas, avec ce film, j'ai vraiment voulu notamment mettre à l'honneur l'empathie, voilà, qui est une valeur qui est essentielle et fondamentale à préserver, et surtout actuellement. Donc, oui. Merci de mettre la lumière là-dessus.
On a de la chance parce qu'il y a votre film qui sort. Moi, j'ai vu d'autres films qui vont sortir. Et en fait, plus on discute, plus il y a d'autres films en fait, où il y a... OK, la société, il y a des thématiques extrêmement anxiogènes en ce moment, mais il y a un cinéma qui est porté aussi par une rage de se battre aussi. Et je pense même à des films pour enfants. Enfin, j'ai eu la chance de voir Arco aussi, qui est dans un autre registre. Mais il y a aussi ce souffle vers l'avant. Sirat aussi, enfin, pour ceux qui le verront, c'est une grosse claque aussi cinématographique. Et c'est comme l'intérêt d'Adam, c'est des films qu'il faut aussi marteler, mais aller voir en salle, en fait, impérativement, parce que je suis persuadée que sur un petit écran, on n'aura pas le même impact, ce côté un peu oppressant. Donc, courez le voir, en fait, sur grand écran. Et du coup, c'est une question, c'est vous, votre volonté, comme pour un monde, de faire aussi des films pour le cinéma. J'imagine quand vous écrivez, vous ne faites pas un film pour que ça soit vu sur une plateforme. Et votre rapport aussi au cinéma, est-ce que vous pouvez en parler aussi de ça, de création pour le cinéma?
Mais c'est sûr qu'on ne vit pas du tout les choses de la même manière, mais aussi parce que le fait d'être avec d'autres spectateurs, en tout cas moi en tant que spectatrice, c'est quand même aussi une expérience sociale. Et qu'il me semble qu'on a de plus en plus tendance à se renfermer, entre guillemets, chez soi, derrière son écran. Et pour moi, la beauté et la force du cinéma, c'est de sortir de chez soi et d'aller à la rencontre de l'autre et sentir l'énergie d'une salle. C'est extraordinaire. Et puis voilà, c'est aussi un des rares moments où, en tout cas, on a moins... c'est pas un moment où on va sur son téléphone normalement. Et c'est un des très, très, très rares endroits, en fait, qui permet ça. Et d'être, d'être focalisé sur une chose, voilà, ça devient de plus en plus rare.
Ben, merci beaucoup.
Merci. C'est très beau.
Merci.
Film.
Merci. Bonne soirée. I feel alive.
in a city that you like. Wait for the day to go dreaming right by. Oh, 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 oh. Seems so hard not to be free when you walk right beside me. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. I don't feel bad. I feel alive in the city you despise. And wait for the day when you come riding on by. Oh, 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 oh. Seems so hard just to be. If it matters, you complete me, yeah. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. Shining in the corner, I don't feel bad. In the modern world, in the modern world, I don't feel.
De retour sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. On a eu beaucoup d'appels d'auditeurs. Là, le standard, effectivement, a explosé. Une auditrice aussi. Alors que sur voilà, cinéma d'animation, est-ce vraiment du cinéma? Donc évidemment, vous savez l'attachement du cinéma d'animation pour une partie de l'équipe. Donc on aura une émission spéciale voilà. Pour débattre pour ou contre le cinéma d'animation. Est-ce vraiment du cinéma? Voilà, donc sortez vos arguments, venez si vous voulez débattre, on fera une libre antenne. Et puis
et bien,
voilà.
Coup, pas à toutes celles et ceux qu'on a choqués par ces
informations. Bah, oui.
Oh, c'était un peu de la provoque quand même, vous imaginez bien.
Enfin, on s'est dit, il faut faire le buzz pour la première voilà. De la saison. Bah, voilà. Il faut faire parler de nous.
Mais le cinéma, est-ce du cinéma? Je lance ce débat.
Les acteurs sont-ils des vrais acteurs?
Ouais, c'est ça. Et bah, Charles, je te laisse la parole pour nous parler d'un film d'une plateforme BIP que je ne cite pas.
Préférée.
Que je n'ai toujours, pas voilà. D'abonnement.
Ton
à
prochain anniversaire, t'offre un abonnement. Ouais, voilà, moi je vais vous parler du film qui s'appelle Le Murder Club du jeudi. Alors comme ça, c'est pas un titre qui se dit, mais tiens, ça donne pas super envie.
Je
mais,
pensais que c'était le type d'un événement, en fait, dont vous voulez parler.
Voilà. Ben oui, là, Le Murder Club du jeudi, c'est ça. C'est un film donc, qui est sorti effectivement le 28 août dernier sur Netflix, qui est une production Netflix, et qui est une comédie policière réalisée par Chris Columbus, donc entre autres, qui a fait Maman, j'ai raté l'avion.
Ah.
Et la saga Harry Potter, enfin il a...
J'espère que le A c'est, c'est bien.
Ah oui, non parce que fais gaffe. Hein, parce... Ah oh là là, attention là.
Qu'est-ce que tu fais?
Est-ce vraiment du cinéma?
Alors, Maman j'ai raté l'avion, est-ce du cinéma? Attention.
Ma première VHS quand j'avais 3 ans.
Et il a fait la saga Harry Potter aussi, il a réalisé les deux premiers et c'est producteur de toute la saga.
Ah oui.
Voilà.
De pire en pire.
Alors, Louise... Donc, alors, l'histoire donc, du Murder Club se passe dans une maison de retraite de luxe en Angleterre. Un groupe de quatre amis se réunissent tous les jeudis pour résoudre de vieilles affaires de meurtre pour plaisir, comme ça, c'est leur passe-temps, hein, chacun son hobby. Mais bientôt, ils vont se retrouver mêlés à une véritable affaire de meurtre au sein de la maison de retraite. je ne vous en dis pas plus sur, sur l'histoire, je vous laisse découvrir. Hein. C'est un film assez mystérieux avec son enquête, donc je ne voudrais pas spoiler quoi que ce soit. Et voilà, c'est un film donc, d'enquête qui est soutenu par un casting qui est lui aussi de luxe. Hein. Dedans, on retrouve Hélène Mirren, qui est une actrice très connue en Angleterre. Pour nous, ça fait un peu, en tout cas pour moi, ça fait partie de ces personnes qu'on voit dans plein de films et on se dit à chaque fois, ah, je l'ai déjà vu dans quelque part, dans un film, celle-là. Et on ne se souvient jamais de son nom. Donc voilà, c'est Hélène, c'est elle. Et c'est une très bonne actrice. Il y a Pierce Brosnan aussi dedans. Donc moi, c'est mon James Bond préféré, hein, James Bond des fin des années 90, début 2000. Ben Kingsley, voilà, qu'on avait vu dans Gandhi en 82. Dans Shutter Island, La liste de Schindler, voilà, on le voit assez souvent. Jonathan Pryce, qu'on voit un peu moins souvent maintenant, mais il a joué dans...
C'est quand même un casting 5 étoiles.
Ah ouais, il a joué dans Brasil, Les Deux Papes, plus récemment. David Tennant aussi, très célèbre pour son rôle dans Doctor Who. Souvent, c'est l'acteur favori de ceux qui ont interprété le Doctor Who. Puis voilà, il y a encore d'autres acteurs, donc ouais, un sacré casting. Le Murder Club du jeudi, donc, fait partie de ces comédies que moi j'appelle, ces comédies policières, j'appelle les films Cluedo. Voilà, c'est les films où le héros, où les héros cherchent qui a tué le colonel Moutarde avec le chandelier dans la bibliothèque. Dernièrement, dans le même genre, on avait eu The Glass Onion, qui était aussi sur Netflix, il y avait eu deux films, avec Daniel Craig, et qui était un film plutôt sympa. Et j'avais bien aimé, et le casting lui aussi était assez impressionnant. Avec Daniel Craig, il y avait... tout un tas d'acteurs très connus aussi, c'était pas mal. Alors, le MCJ, c'est comme ça que je l'appelle, hein, Murder Club du jeudi, parce que moi, si je faisais partie du groupe de ce club, voilà, déjà, et qu'on avait un groupe WhatsApp, je pense que j'appellerais MCJ tout le temps, le truc. Et on se retrouve pour le MCJ jeudi. Donc, le MCJ, bah, c'est chouette, c'est un film qui est très bien mis en scène, qui est très bien joué, voilà, bah, c'est... voilà, Chris Columbus à la mise en scène et réalisation, bah, il fait très bien son boulot, hein, comme il l'a fait dans d'autres films, dont Maman, j'ai raté l'avion.
Et Maman, j'ai encore raté l'avion.
Et j'ai encore raté l'avion. Donc c'est un film qui est très bien joué, très bien mis en scène. On peut pas reprocher grand chose. Hein. Ouais, c'est une comédie assez policière, assez simple. Mais je regrette juste un petit peu que le scénario soit un petit peu léger, en fait, au niveau de l'intrigue et toute l'enquête policière. C'est un peu léger. Je ne me suis pas ennuyé, hein, pendant le film. Ça se regarde bien, voilà. Mais ça manque un poil de fun et d'humour. Parce que moi, je trouve que les films Cluedo, ça se passe toujours un peu dans le milieu de la bourgeoisie. Voilà, et c'est drôle parce que ça joue souvent sur les clichés de la bourgeoisie, etc. Et donc,
les manoirs.
Les manoirs, voilà, les lieux, les décors, tout. On se retrouve un peu dans le même univers. Et c'est bien quand ça se moque un peu de tout ça aussi. Et Glass Onion, par exemple, bah, il était assez drôle, justement. Il jouait bien là-dessus. Il y avait une intrigue qui était sympa, c'était bien ficelé. Et puis, bah, on prenait aussi plaisir. Quand il y a des films avec autant d'acteurs connus, ça fait... Il y a un certain plaisir à les voir s'amuser, jouer entre eux, en fait, aussi. On voit qu'ils s'éclatent. Et là, je trouve qu'il manque ça aussi un petit peu. On ne sent pas que le casting non plus, il est hyper content d'être là et s'éclate. Bon, mais voilà, reste un film quand même plutôt sympa. Et moi, perso, c'est un avis personnel, mais dans ce genre de film, je trouve plus intéressant quand le spectateur du film, donc nous, connaît le coupable dès le début et que tout joue sur le fait que bah, les héros cherchent à coincer le méchant et le méchant cherche à ne pas se faire coincer par les gentils. Et moi, j'aime bien ça. Et pour cela...
Est-ce que t'aimes bien Columbo ?
Et par exemple, bah voilà.
Ah, Columbo, mince,
c'est la série parfaite pour ça. C'est merveilleux.
Je savais que t'allais en parler.
Bah oui, évidemment. Et donc, moi, je vous recommande hein, le Murder Club du jeudi. C'est un film plutôt sympa. En plus, ce week-end, il pleut. Et c'est un très bon film du dimanche après-midi. Voilà, je l'ai recommandé à ma mère, elle a bien aimé, sans plus, tu vois, elle a dit « Oh, mais c'était sympa », voilà, c'est un film soft et pas prise de tête, donc ça marche très bien, et puis vous pouvez regarder ça, et puis ensuite, bon, enchaîner sur un ou deux épisodes de Columbo, hein, parce que bon, et ça reste vraiment le summum.
Voilà. Et ta femme, elle en dit quoi ?
Hein, ma femme, j'ai pas de femme, donc voilà, tant pis. Et, Et ici, dans le studio, malheureusement, les micros sont accrochés à la table. Mais si je pouvais, je prendrais mon micro et je le lâcherais tel Obama. Parce que Columbo, c'est le meilleur et j'aurais rien de plus à ajouter. Voilà.
Magnifique.
Alors, Columbo est plus respectable que Derrick, par exemple.
Derrick, ça c'est.
On pourrait faire une émission là-dessus aussi. Hein,
sur Derrick. Alors, je ne me ferai pas l'intégrale de Derrick, non.
Moi non plus.
Louise, peut-être
Pour comparer avec Columbo.
Elle ne sait pas qui c'est.
Elle ne sait pas qui c'est, Derrick.
Columbo, par contre, si.
En plus, Charles, il en a régulièrement parlé sur cette antenne.
Mais j'essaie de le passer au moins une fois.
Ouais, c'est comme moi avec
Devers.
Ah oui.
Et on a nos passions. On va enchaîner avec toi, Louise. On va passer à du court-métrage. Et ensuite, on parlera d'un film qui n'est pas soft et qui est un peu aussi beaucoup de réflexion. Donc, pas du tout la même chose que toi, Charles. Je te laisse la parole, Louise.
Alors, cette semaine, ça a été compliqué. La reprise des cours, le cercle infernal de l'étudiant entre sortie, cours, parfois travail pour payer les courses, le logement, etc. Alors, j'ai fait une chronique en pensant à vous et pas forcément que les étudiants, les personnes aussi qui n'ont pas forcément le temps. Alors, comment faire un petit signé lorsqu'on a moins d'une heure devant soi? Eh bien, j'ai la solution pour vous, les courts-métrages. Eh bien, plutôt que regarder des vidéos YouTube, des reels sur Insta ou encore le TikTok... Eh bien là, c'est des histoires complètes, généralement au moins de 30 minutes et surtout accessibles sur Arte, une plateforme vraiment très intéressante. J'adore Arte. Et oui, on peut quand même se faire un petit ciné, même si c'est sur le pouce. Moi je dis pourquoi pas. Alors cette semaine, j'ai choisi de vous présenter le court-métrage suivant, L'escalier de Frédéric Mermoud. Et du coup, je l'ai regardé hier soir parce que j'ai pas trop eu le temps. Donc Frédéric Mermoud, il est né le 23 juillet 1969 à Sion et c'est un réalisateur suisse. Et il a fait des courts-métrages depuis 1995 tels que Le Baiser, Aller-retour, Les électrons libres et du coup L'escalier en 2003. Il faut savoir que ce film-là, ce court-métrage, il a quand même reçu le meilleur court-métrage au Festival du film de Cabourg et aussi le Grand Prix du Festival du cinéma européen de Lille. Quand même, c'est pas si mal. Et il a fait aussi quelques longs métrages. En 2008, Complice. En 2016, Mocha. Et en 2023, La Voix Royale. Je crois qu'on en parlait tout à l'heure. Solène, toi, tu l'avais, La Voix Royale. Ça te disait quelque chose?
Oui. Ouais, c'est sorti l'année dernière au cinéma, ou il y a 2 ans.
Et c'est aussi quelqu'un qui a fait de la télévision. Donc, en 2022, il a fait une série télévisée, L'île aux 30 cercueils. Moi, je connais pas. Je sais pas si quelqu'un...
Non plus.
Mais La Voix Royale, ça parle surtout d'une étudiante. Donc,
Qui regarde des courts-métrages?
Non,
parce qu'elle n'a pas le temps.
Non, c'est un peu des conflits aussi de classe. Quoi, parce que, ouais.
Donc ce court-métrage dure 22 minutes, très précisément. Et il y dépeint les allers et retours d'une relation amoureuse entre deux jeunes gens. Hervé, interprété par Clément Vandenberg, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, et Rachel, interprété par Nina Meurice. Donc ces deux acteurs, ils n'ont pas eu une carrière. Enfin, ils ont fait d'autres choses.
Ah aussi, Nina Meurice.
Oui, elle a joué d'autres fois.
L'histoire de Souleymane l'année dernière, notamment.
Ah oui,
Elle faisait un petit rôle. Elle n'avait pas le rôle principal, mais elle avait un rôle important dans le film. Ouais.
En tout cas, Clément Vandenberg, je n'ai pas trouvé grand-chose. Je sais qu'il a fait quelques petits trucs, mais je ne connaissais pas. Et donc, ce court-métrage, il joue sur cette notion d'escalier, de marche montée, dans une relation comme le premier baiser, les premiers rapports corporels, la question de la sexualité lorsqu'on vit chez ses parents ou encore les besoins d'émancipation. Et du coup, voilà pour le petit résumé. Et au niveau de la critique, je me suis dit que c'était peut-être intéressant d'aller voir ce qui était dit un petit peu tout ça. Et j'étais étonnée puisqu'il a un 2,4/5 par Allociné. Après, j'ai vérifié.
Ça veut rien dire.
Ça veut rien dire à le ciné.
Surtout qu'après, j'ai vérifié les votes. J'ai vu qu'il n'y en avait que 3. Donc...
Ouais, ouais non, voilà, c'est ça. Ouais.
Regarde, il y a bien des gens qui disent que l'animation, c'est pas du ciné.
Mais voilà, ouais.
Et donc,
faites votre propre avis.
Ouais, c'est ça. Je me suis fait mon propre avis en le regardant. Et puis, je trouve que j'ai plutôt bien apprécié. J'ai trouvé des plans très poétiques. Et j'ai bien aimé l'escalier qui était au cœur de l'histoire, qui semble un petit peu... nous transporter dans leur histoire, nous mettre au cœur vraiment. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est que c'est un peu une dimension nostalgique. Ça nous rappelle nos premiers émois, nos premières sorties, tout ça. Après, c'est pas la perle rare pour moi,
Mais je dirais que quand on n'a pas trop de temps, quand on a envie d'un film qui est un petit peu réconfortant, comme ça, qui n'est pas trop prise de tête, en fait, moi, je le comparerais à la lecture de plage. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
Ouais, ouais.
Bah, à la plage, on ne va pas lire du Kant, hein, ou à part si les gens sont vraiment...
Il ne faut pas juger les gens comme ça.
Non, mais c'est compliqué de lire du Kant à la plage, quand même. Et du coup, moi, je dirais que ça, c'est un film plaisir, entre guillemets, pour se réconforter.
Voilà. Bah merci Louise. Je vais enchaîner, puis Géry a vu le film. Alors là, c'est pas forcément un film réconfortant, hein, on veut pas le cataloguer
non, pas
comme ça. On va parler de Sirat d'Oliver Lex, ou Lax. Quatrième film hein, du réalisateur espagnol qui a eu le prix du jury officiel de Cannes en mai dernier. Donc, vous imaginez, c'est le début du film, une rêve partie en plein désert marocain. Un jeune garçon, son père, joué par Sergi Lopez, cherche sa fille qui a disparu. Et il pense qu'elle est là, dans cette rêve partie. Et c'est 15 minutes. Enfin, le générique, en fait, dure... Enfin, c'est assez brillant, d'ailleurs, ce début de film. Parce que le titre du film doit apparaître au bout de 15 minutes. Enfin, vraiment, je pense que ça peut être analysé en école de cinéma, ce début de film. Et puis ensuite, voilà, ils doivent fuir, parce qu'on peut imaginer que c'est peut-être une guerre mondiale, ou en tout cas, il y a une guerre lointaine, et ils doivent fuir. Enfin, moi, c'est ce que j'ai saisi du film. Et ils fuient dans le désert marocain. Et à partir de là, évidemment, on ne va pas vous raconter ce qui se passe, puisqu'il y a tellement de... Enfin, il y a plusieurs péripéties, et c'est un film aussi avec de la tension et du suspense. Pour moi, clairement, c'est un des films choc de l'année. C'est une méditation sur la mort sous toutes ses formes, la mort spirituelle, la mort physique, la mort aussi d'une certaine manière de nos sociétés. Sirat, c'est un film voilà, sur la vie, sur la mort, mais aussi sur la jeunesse qui fuit, hein, qui essaye de... qui espère aussi en une meilleure vie. C'est pour ça aussi, il y a ces gens aussi qui dansent, parce que dans cette espèce de transe, quand ils dansent, il y a un truc aussi sur les corps dans le film, et c'est une sorte de libération. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est un film, comme une expérience, vraiment, c'est une expérience de cinéma. Enfin, peut-être en dira quelques mots, Géry. Et moi, je l'ai perçu vraiment comme ça. Je pense qu'on aura différentes interprétations du film, et c'est pour ça que je trouve le film aussi assez brillant, c'est que personne n'aura peut-être les mêmes interprétations. On ne peut pas vous parler voilà, de toutes les péripéties du film, mais à la sortie du film, en tout cas, chacun avait un peu ses interprétations. Certains n'avaient pas forcément aimé, et quand tu leur dis bah, « moi, j'ai perçu ça du film », ils font « ah ouais, ok, bah oui, peut-être, ouais, oui, effectivement ». Rien que ça, je trouve que c'est un film, en tout cas, vu qu'on en parle beaucoup après, bah, c'est un film qui marche, qui compte. Ouais, je vais pas, le temps nous est compté, donc je ne vais pas forcément trop vous en dire, à part vous dire que le réalisateur a écrit son film aussi sur le dance floor, donc vraiment, limite en dansant. Il a eu les premières images de son film vraiment en dansant. Il avait déjà des images des camions que vous verrez dans le film, les images des paysages marocains, il les avait déjà imprimées. Il a coécrit son film voilà, avec un scénariste qui s'appelle Santiago Fidol. Et puis vous dire aussi qu'il a été coproduit par les frères Almodovar, hein, Pedro et Augustin Almodovar, via une société espagnole. Donc le film va représenter l'Espagne aux Oscars, et même s'il a été tourné à 80% au Maroc. Et au niveau du casting, que des acteurs non professionnels, à part Sergi Lopez. Voilà, c'est la première fois d'ailleurs qu'il fait jouer un acteur professionnel dans un de ses films, Oliver Lax. Et au niveau des références, bah là, y en a beaucoup, même si ce n'est pas forcément appuyé, mais on peut penser voilà, à Mad Max, on peut penser au Salaire de la peur. Lui, il cite aussi du Tarkovsky dans ses interviews, le réalisateur, et notamment Stalker et Nostalgia. Il parle aussi d'Antonioni avec Zabriskie Ponte, donc effectivement ça fait écho, hein, c'est pas déconnant. Moi j'ai perçu ça vraiment comme un voyage intérieur, une œuvre assez sidérante, multiple. Clairement ça sera un de mes films de l'année. Enfin, en fait je suis sortie de la salle en me disant mais qu'est-ce que je viens de voir en fait. Et je l'ai vu en mai dernier, j'ai eu la chance de le voir à Cannes, et je suis sortie de là en me disant mais et je l'ai pas revu hein, depuis. Et j'ai des images encore qui me restent, donc preuve que pour moi, en tout cas, ça fonctionne. Après, je pense que chacun aura son interprétation encore une fois, et ça marche ou ça marche pas. En tout cas, c'est une proposition de cinéma qui est singulière. On ne pourra pas dire qu'on a vu ça avant, en tout cas. Donc ça, c'est au moins... Après, on aime, on n'aime pas, mais... Vas-y, Géry.
Ben oui, Soline, je te rejoins sur pas mal d'aspects de ce film, notamment sur l'aspect choc. On peut peut-être le dire, c'est un film qu'on peut déconseiller aux âmes sensibles. Il y a,
oui,
il y a des scènes
qui peuvent heurter, il ne faut pas être cardiaque non plus. Hein, parce que ça, voilà,
on... Après, au niveau des références, il y a beaucoup de médias qui citent l'aspect Mad Max du film. Mais bon, ce n'est pas forcément que le côté désertique tout au long du film. C'est aussi sur la symbolique. Il y a beaucoup de symbolique, pas forcément entre les deux films. Mais ces deux films, en fait, ces deux films qui se veulent assez symboliques, avec un scénario au final assez simple, sans être simpliste. Et dans ce cas, je trouve qu'il y a beaucoup de... Après, libre à chacune et chacun leur interprétation, mais de références spirituelles, voire ésotériques. Donc je vous invite à le voir et à en débattre, et aussi à le voir au cinéma. Je pense qu'en le regardant chez vous, vous perdrez sûrement un grand aspect du film, c'est-à-dire la musique qui appuie fortement le propos du film au travers des différentes scènes, avec une musique puissante, surtout concentrée en fait sur les basses fréquences, qui font vibrer à la fois les personnages du film, mais également le spectateur. Pour moi, oui, ce sera, je pense, je m'avance peut-être, mais un des films dans mon top 10. Et je vous invite fortement à le voir, tout en prenant en compte que ça peut choquer.
Ouais, c'est ça. Ouais. On ne peut pas dire de quelle manière, mais en tout cas, soyez préparés effectivement à ça. Ce n'est pas au sens film d'horreur, mais voilà. Et ben voilà, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir le film. Et puis après, on pourra en discuter une fois que vous l'aurez vu.
Alors, Géry, c'est un top 5 qu'on fait à la fin de l'année, oui. Pas un top 10. Ne te trompe pas.
Bah non, s'il y a le top. Oui, il y a les flops aussi. Ça peut faire 10. Ouais.
Il nous reste 5 minutes. Comme ça nous permet de parler un peu des tournages en local, Isabelle, et conclure là-dessus.
Ah, super. Donc, il y a beaucoup de tournages en région. Enfin, deux.
Ouais, c'est déjà beaucoup.
C'est déjà pas mal, oui. Il y a celui de Jérôme Bonnel qui tourne en ce moment dans la région de Tours. Un jour, nous ferons l'amour. Des promesses, hein, des promesses.
Il va tourner à Pernay, d'ailleurs.
Oui, il va tourner vraiment dans plein d'endroits. Donc, c'est une série pour Arte avec Natacha Krief, qu'on a vu dans Le Magnifique Rabia de Marieke Engelhardt. Et Édouard Sulpice, qu'on a vu dans L'Événement de Audrey Diwan, où jouait Avec le feu de Delphine et Muriel Couleur. Voilà, ça, on aime, ce qu'on disait, on va aller voir des courts-métrages, voilà, des nouvelles têtes, ça c'est super. Donc voilà, vous allez sans doute le croiser si vous habitez à Tours, parce que la dernière semaine est à Tours. Et puis, le deuxième tournage, c'est l'opus 3 de La Brigade du Fleuve, de Nicolas Guichetot pour France 3. Il cherche des figurants, justement, pour les 29 et 30 septembre à Savonnières. Donc là, ce sont des adultes dont on a besoin. Et ils ont également besoin de personnes qui savent nager, c'est important, le 29 septembre à Savonnières, mais aussi les 7 et 8 octobre à Blois pour jouer des nageurs et des nageuses. Et toujours le 29 septembre, alors là, c'est très spécifique, ils ont besoin d'une doublure. Un comédien qui mesure entre 1m65 et 75, qui sache impérativement piloter un scooter. Et si c'est votre cas, vous pouvez envoyer votre photo et votre CV à tourencasting@gmail.com.
Charles, voilà. Géry, vous voulez postuler?
Alors, non. Non.
Vous êtes trop grand, non?
J'ai deux événements ajoutés à l'agenda que j'ai fait.
Ah oui, coup de pas,
lundi, à 19h, au Kubrick Café, près de la place Plumeau, il y a un quiz 100% Nicolas Cage. Pas l'occasion d'y aller, mais je vous invite à y aller. Et également, il y a une exposition qui est en cours à l'atelier.
Ah oui.
L'atelier des 3-8, qui se nomme sobrement L'atelier des 3-8 fait son cinoche. Je ne l'ai pas vu.
Mais on m'a dit que c'était bien, ouais.
C'est ça. On a également été dithyrambique sur cette exposition. Le vernissage a lieu le jeudi 18 et ça sera en cours jusqu'au 16 octobre. Et voilà, je vous invite à le voir. L'affiche donne vraiment envie, puisque... C'est un détournement du... Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce petit...
Médiavision.
Avec le masque de Scream.
C'est où, ça?
C'est l'atelier des 3-8 qui se trouve au...
Dans le vieux
Tour. Saint-Martin à Tours.
Dans le vieux Tour, ouais.
Jean Miner.
Ouais, c'est ça. Et ben bah ouais, pas mal d'actu. On n'a pas eu le temps, voilà, de tout traiter, mais on est à 3 minutes de la fin. On va terminer en musique, comme ça, une musique que tu avais choisie, Charles.
Qui n'a rien à voir avec mon film. Hein.
Ah ouais,
c'était juste pour... Bah non,
sinon, j'aurais mis Sirette, moi, enfin.
Bon, ah bah,
c'est
pas grave.
Non, parce qu'elle est là, donc je vais pas... Non, je vais la mettre. Mais pourquoi tu l'as choisie de...
J'écoute ça en ce moment.
Donc... Ok. Voilà.
Attention,
on l'a pas entendu dans un film, c'est ça?
Peut-être que ça viendra, ça peut donner l'idée à quelqu'un qui écoute, qui cherche une musique pour son film.
Ça marche, donc elle s'appelle
CRP. CPR, je sais plus. Ah ouais. Non, CPR, CPR.
Non, on était un sans faute, Charles. Là, c'est sur un sans faute. Bon, après, on vous laisse avec Eric, voilà. Puis on se donne rendez-vous dans 15 jours, le 4 octobre, pour une nouvelle émission de Plan Séquence. Ciao.
Salut.
Salut.
Au revoir.
Suicide, is it love or suicide? Is it love or suicide? Is it love?